Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Aujourd'hui dans Retransmission, nous allons écouter trois portraits de femmes du quartier Bellevue. Sophie Razabi, Sandra Belland et Pascal Bernard. Ces portraits ont été réalisés dans le cadre d'un projet nommé « Héroïne du quotidien » par la compagnie La Lune Rousse. Bonne écoute.
Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmes, Thérèse. Vous ne les connaissez pas? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien. Et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits, ce sont les héroïnes du quotidien.
Je trouve que la figure de héros, c'est pas ce dont je rêve, parce que je trouve que le héros, il se sacrifie toujours pour les autres. Quand je donne, ça me fait du bien et ça me fait plaisir, et du coup, en ça, je sais pas si je suis une héroïne, parce que je me sacrifie pas.
Je m'appelle Sophie Razavi, j'ai 30 ans.
Ça peut te servir.
C'est ça.
Ça peut te servir, on sait jamais.
Je suis pas une héroïne.
J'ai pas envie de me définir comme une héroïne, j'aime beaucoup me définir comme une militante.
D'accord.
J'aime bien l'idée d'être investie dans une cause, de donner aux autres, et je trouve que c'est le mot qui me correspond. Je viens d'une famille qui, historiquement, a toujours beaucoup été engagée politiquement, etc. Et la militance, c'est aussi récupérer toute cette histoire-là, en fait, de tous ceux qui se sont battus avant nous. Je pense que comme je suis donc enfant issue d'une double culture... L'idée, en fait, de me trouver une communauté a toujours été hyper importante pour moi. Ça n'a pas été facile dans mes amitiés. Parce que bon, l'éducation de ma famille, notamment la partie iranienne de ma famille, faisait que j'avais pas trop le droit de sortir. Et donc, en fait, trouver un moyen de pouvoir sortir et faire partie d'une communauté, c'était pas tant les groupes de potes, c'était plus les actions militantes. Donc, j'ai d'abord commencé dans des mouvements de jeunes de partis politiques. J'ai arrêté ces partis politiques parce que justement, il me manquait l'action en fait. C'est chouette de faire des réunions et de parler du monde et de la stratégie politique au national, à l'international, mais en vrai, on faisait rien sur le terrain quoi. Donc j'ai très vite lâché les cadres politiques et après, j'ai commencé à militer en tant qu'étudiante. J'avais 18 ans, c'était une association de solidarité internationale où on retapait une école au Maroc. Puis une autre association qui était plus sur de la culture, et l'idée c'était de faire un festival de musique et d'art vivant, mais autour d'une problématique. Donc ça pouvait être le droit international, ça pouvait être la question de l'immigration, etc. J'ai pas mal été dans les mouvements aussi de squat à Toulouse, à l'époque j'étais. Et après je suis venue à Nantes et j'ai fait un boulot classique pour rembourser mon crédit étudiant. Et après je me suis dit, bon tu sais bien, t'as ton diplôme de Sciences Po, j'avais pas envie de faire partie de l'ENA et de ce type de personnes-là. Et j'avais fait un master politique genre et discrimination. En vrai j'avais déjà choisi que, que si j'avais un métier ce serait au service de causes qui m'intéressent quoi. Moi, j'aimais bien l'idée de retourner dans un quartier pop parce que c'est là où j'ai grandi avant de partir en Aveyron. Parce que comme je venais d'un village en Aveyron, j'avais trop envie aussi de retrouver un territoire où il y aurait un peu cette ambiance village. Où, bah, du coup, tu vas au boulot et en fait, tu passes voir les gens que tu connais dans le quartier, tu connais les prénoms, tu te donnes des nouvelles. Parce que militer, c'est aussi lier des amitiés, quoi. Et lier des liens avec des gens et que ce soit pas juste de l'impersonnel et de l'indifférence, quoi. C'est hyper important de se donner aussi des choses de l'ordre de l'affect. Et en fait, j'ai commencé à bosser au collège de Bussy en tant qu'assistante de prévention. Et je m'occupais du décrochage scolaire.
Qu'est-ce que c'est, assistante de prévention ?
Ça, c'est un statut qui avait été monté par Sarkozy. Pas tant pour lutter contre le décrochage scolaire en vrai, mais pour lutter contre tous les actes un peu de violence et pour améliorer les climats scolaires dans les établissements. Et en fait, on avait tous des statuts différents. Les assistants de prévention et de sécurité, il y en avait qui avaient des profils gendarmes.
D'accord.
Donc on faisait pas du tout le même travail. Donc en fait, on était un petit peu un petit électron libre en fait dans l'établissement scolaire. On s'occupait un peu du partenariat associatif, des décrocheurs et puis après de s'occuper des formations toutes bêtes mais de genre la SSR. Bon, ça c'était pas passionnant quoi. Et c'était chouette dans le rapport aux jeunes parce que j'ai créé des liens avec des jeunes qui étaient géniaux et je trouve que les décrocheurs, en général, c'est des gamins qui ont beaucoup trop d'énergie pour réussir à se tenir au cadre de la classe, mais qui, en soi, ont plein de choses à faire, à proposer. On a monté des mini-entreprises pour aller voir un Star Wars. Enfin, et c'était hyper chouette, si tu veux, de passer du temps avec eux et de leur faire comprendre que même s'ils n'avaient pas un potentiel scolaire, ils avaient tellement de potentiel en dehors. Et c'était hyper important de leur montrer que, enfin, de leur donner confiance, quoi.
Donc après ce travail-là à Debussy, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé déjà, c'est Charlie, enfin les attentats à Charlie Hebdo. Ça, plus le fait que je voyais à quel point les jeunes, je les adorais, ils avaient du potentiel, mais ils se fracassaient en fait en termes de réussite scolaire. Ouais. Voir en plus, ben voilà, c'est Charlie Hebdo, t'es au premier rang le lendemain matin pour parler aux jeunes, et puis après ils retournent dans leur salle de classe, et tu vois toutes les petites discriminations quotidiennes qu'ils subissent, et tu te dis non mais en fait c'est pas dans le cadre scolaire en fait que je peux réussir ce que j'ai envie de faire, c'est beaucoup trop dur, parce que l'institution scolaire, son but, c'est pas que les enfants s'épanouissent, c'est que les enfants aient un travail. Et moi, c'est pas mon but dans la vie, que les gens aient un travail. Et en fait, comme je m'occupais des associations, j'avais été approchée par l'association Les Quais de la Mémoire, qui est une association historique sur Bellevue, qui existait depuis les années 90, et qui voulait tourner un film dans un établissement scolaire. Et donc, je crois que le tournage, on n'a pas réussi à le faire, parce que bon, l'éducation nationale, mais je m'étais vachement bien entendue avec eux. Eux, ils avaient vu que j'avais un lien plutôt chouette avec les gamins, que je savais écrire, et ils ont dit, bon, ben, est-ce que ça te dit de faire des ateliers cinéma avec les gamins? Moi, je viens de la radio, j'étais là, mais j'y connais rien. Ils ont dit, c'est pas grave. Apprendra en marchant. Et donc j'ai démissionné de mon poste et j'ai été embauchée du coup au Quai de la Mémoire pendant 2 ans. Et après j'ai continué avec une autre association qui s'appelle Café Prod, qui fait aussi de l'audiovisuel dans le quartier, plus généralement des commandes de films pour les assos. Là on commence à peine à lancer des ateliers pour les jeunes, mais c'est plus voilà, que l'audiovisuel serve en fait les quartiers populaires. Enfin, ça permet en fait de donner de la visibilité aux quartiers populaires et surtout de donner une visibilité qui soit pas cette image quand tu regardes les archives du quartier Bellevue sur l'INA, ben, en fait 90% des archives c'est sur les violences. Alors que tout le reste du potentiel d'un quartier populaire, de gens qui se bougent, d'histoires incroyables, ben tout ça, c'est pas visibilisé en vidéo. Et donc l'idée, c'est de justement permettre de créer de la vidéo et d'avoir du contenu vidéo qui donne une autre image des quartiers pop, et en tout cas de Bellevue.
En somme, le quartier de Bellevue, il a été créé par les femmes. Ça, c'est vrai.
On est une association de couture, on peut faire des trucs. Ça serait bien qu'on propose à la ville de Nantes de travailler ensemble et de fabriquer des masques pour distribuer aux Nantes.
Il y avait une femme qui s'appelait Marie-France Flao, qui avait créé la première équipe de basket de Bellevue.
Il y a le directeur qui m'a dit, on y va, mais est-ce que tu pourrais donner une dimension collective à ce projet ? C'est génial.
Il y a beaucoup de femmes qui se bougent sur le quartier. Il y a des mecs aussi, en vrai. Je pensais à tout un tas d'associations sportives, à Yasmine, avec la danse, enfin, qui se sont montées. Après, ce que je peux voir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de nanas qui sont pas dans des assos, mais qui donnent énormément de leur temps à leurs voisines, à leurs copines, qui vont récolter des infos pour aider le fils de son ami ou le cousin de je sais pas qui. Et c'est pas forcément des nanas qui bossent, donc je pense que c'est aussi une manière pour elles d'être actives. D'être utile, et c'est aussi parce que c'est sûrement des nanas qui ont dû gérer leur foyer et gérer toutes ces démarches administratives qui leur incombent et qui du coup se disent bon bah c'est galère, c'est pas facile, et il y a des nanas pour qui c'est encore moins facile et qui du coup se donnent ce rôle là à leur petite échelle en dehors de n'importe quel cadre d'être utile en fait. Après, on les retrouve, c'est souvent des nénettes qu'on voit dès qu'on fait un événement et qui viennent, etc. Elles se tiennent quand même vachement au courant de ce qui se fait dans les assos. Mais je pense que là où elles font la différence, c'est dans leur entourage proche. Voilà, après, c'est peut-être ce truc de rôle-là de la femme, de donner aux autres. Donc bon, c'est peut-être pas pour une bonne raison, mais le fait est que la conséquence est chouette.
On achetait le shampoing à tout faire, on achetait la lessive toute faite, on se posait pas de questions. C'était le bénéfice d'avoir les machines à laver, la libération de la femme, on est rentré dedans, puis tout d'un coup on se réinterroge. Et c'est ça qui est intéressant.
Je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Je pense que quand on va vers les gens ou quand on fait quelque chose, c'est d'abord parce qu'il y a un désir en nous, il y a quelque chose qu'on veut solutionner chez nous, en fait. Et donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est aussi pour nous qu'on le fait. Et je trouve que l'intérêt, alors peut-être qu'il faudrait lui trouver un autre nom plus joli que juste l'intérêt, parce que ça fait très société capitaliste, mais l'intérêt, ça fait 2000 ans qu'on dit que c'est mal, alors que c'est hyper important de se faire du bien. Et qu'il faut assumer que quand on donne aux autres, on se fait du bien aussi à soi-même, et de pas croire que c'est de la pure générosité, que c'est du pur don aux autres. C'est hyper important de dire, bah, je fais ça parce que moi, dans mon histoire, cet endroit-là, j'ai besoin de le guérir de quelque chose, et en donnant, bah, je me fais du bien à moi aussi.
Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmes, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien.
Alors, je pense tout de suite à Wonder Woman.
Ah oui.
Quand même, hein.
Quand même.
Ouais. Mmh. Et en même temps, à Sœur Emmanuelle. Héroïne, c'est, pour moi, c'est ça. C'est que ça, on peut voir quelqu'un de très forte, mais ça peut être aussi quelqu'un, hein, qu'on pourrait dire fragile ou qu'on ne voit pas forcément et qui, hein, du coup, hein, fait un énorme travail. Hein. Je me qualifierais plutôt de passeur. Moi, je pense que je suis, voilà, c'est plutôt être passeur et de transmettre des choses en fait aux enfants, aux ados, aux adultes.
Hein. On dit pas ça au féminin, ça marche pas. Je suis une passeuse. C'est...
Non, il y a des mots, voilà, il y a des mots masculins, des mots féminins, mais passeur, oui, je suis un passeur. Allons-y.
Sandra Bellan, bonjour.
Bonjour, Angèle. Moi, j'ai commencé par animer des ateliers d'écriture et de lecture. Ça va faire plus de 12 ans que je travaille pour l'association Récréation. Et au fil du temps, en fait, et du travail que j'ai pu faire, moi, par exemple, avec la compagnie de la Lune Rousse, d'autres compagnies, les centres culturels, on a commencé à développer aussi des stages pour promouvoir la réussite éducative. Je suis aussi auteure, donc je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et justement, dans cette histoire aussi d'auteur, d'écriture, quand tu demandes à des gens, bah, est-ce que vous voulez participer à un atelier d'écriture, ils disent, ah ben non, parce que c'est soit ils te disent, ben non, de toute façon, je ne suis pas un écrivain, ou alors j'étais nulle à l'école en écriture. L'écriture, c'est quelque chose de très personnel, mais quand tu es dans un groupe, et du coup, quand c'est en plus un groupe bienveillant, que tu es un peu quand même dans les jeux, que c'est ludique, tu lâches quelque chose et souvent tu découvres une part de toi que tu ne connaissais pas. Mmh. Et je pense par exemple à une personne qui, quand elle a commencé il y a quelques années, détestait la poésie. Parce que bon, elle c'est une retraitée, donc c'était quand même l'époque où la poésie, on était debout devant. Enfin, quoi que ça n'a pas trop changé,
ouais,
mais enfin voilà, c'était pas très.
Ouais.
Pas très sexy, pas très fun. Et comme nous, tous les ans, on travaille autour du printemps des poètes. Mmh. Donc la première année, ça a été très, très douloureux pour elle. Et en fait, maintenant, elle nous fait des trucs. Et en fait, elle a découvert que finalement, en fait, la poésie, ça lui plaisait. Mais c'était une autre forme de poésie. L'idée, c'est ça aussi. C'est de trouver sa propre écriture. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la partager avec les autres. Je travaille avec une sophrologue, et du coup, l'accompagnement scolaire, on le fait du coup à l'école, pour plutôt les CM2. Et après, on est dans les collèges, les lycées, post-bac. On travaille aussi beaucoup avec le CFA, esthétique et coiffure.
Donc là, c'est un tout petit peu plus large que la lecture et l'écriture, visiblement. Ça a un rapport
plutôt avec... Là, on est plus... on va plus travailler sur la gestion des émotions... réviser on va travailler beaucoup sur la gestion, mais notamment en ce moment plutôt sur la gestion du stress plus, ce qui sont vraiment pas bien, mais les petits pareil. Donc c'est un autre pan, on a vraiment tout le côté animation autour de l'écriture, lecture, tout le pan culturel et le pan formation. Du coup, je fais une formation de passeur de nature. Et lors du premier confinement, du coup, on est tous restés chez nous. Et quand, en fait, on a été déconfinés, et bien les enfants dans le quartier ne ressortaient pas. Du coup, quand on est intervenu pour ça, bouge dans les parcs. Et ça a été vraiment flagrant. C'est qu'en fait, il n'y avait personne, en fait. Les enfants n'étaient pas dehors. Et on se retrouve avec des enfants... déconnectés. Et nous, on a quand même de la chance à Bellevue d'avoir des parcs, d'avoir de la nature. Donc là, il faut les reconnecter à la nature pour qu'ils puissent se reconnecter à eux-mêmes, en fait. En ce moment, j'ai des CE1, donc c'est quand même des petits. Enfin, il y a beaucoup de problèmes de comportement, mais qui, en fait, traduisent une angoisse. Et puis, le confinement, d'avoir raté autant d'école, ça pose... Du coup, au niveau de la lecture, ils sont pas au niveau, en fait. En plus, ils ont plus cette posture d'élève. En plus, beaucoup ont été enfermés avec les grands frères, les grandes sœurs. Ça, c'est des bonnes idées. Donc, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir des pré-ados, des ados avec moi. Donc, en fait, ils font des choses qui ne sont pas de leur âge. Donc, il les met en insécurité émotionnelle. Donc, en ce moment, je travaille beaucoup sur la gestion des émotions, donc à partir de la lecture. Mais on fait énormément parce que là, c'est pas simple. Pendant le deuxième confinement, j'ai continué plaisir de lire, mais par WhatsApp. Donc, j'avais très peu d'élèves. Et du coup, j'avais des élèves à l'école de la Rabotière. J'avais 3 élèves que j'avais eu juste avant le confinement. Donc, du coup, déjà, ça s'était arrêté. Et donc, là, on ne pouvait pas reprendre. Et du coup, il y a une petite qui m'a dit « Oh, mais Sandra, quand est-ce que je vais te revoir en vrai? Tu me manques tellement. » Quand on est une petite association de quartier qui travaille dans un quartier prioritaire, des fois, il y a pas mal de dédain, de mépris de certains services. Alors, nous, on a de la chance parce qu'on travaille essentiellement avec Saint-Herblain et du coup, on n'a pas été confrontés à ça. Et au contraire, on a été soutenus, mais... Le fonctionnement même du système fait qu'on nous met... déjà maintenant, on nous met en compétition les uns contre les autres. Qui est très très difficile à vivre pour tout le monde. Les subventions, on a des subventions juste pour une action, et une fois que c'est bien mis en place, il n'y a plus rien. Surtout quand on sait ce qu'il faut mettre en place dans les quartiers, le temps que ça prend, on ne nous laisse pas le temps en fait. On est un certain nombre d'associations, on travaille quand même ensemble, on pourrait faire vraiment des choses. Je pense par exemple avec vous, de l'écriture et compte. On l'a fait il y a quelques années quand il y avait encore un peu de sous. Mais en plus, là, l'écriture et le compte pour les enfants, pour les accompagner là dans cette période, mais ce serait extraordinaire. Et du coup, on a enfermé les assos, certaines assos dans ces quartiers-là, les habitants dans ces quartiers-là. Et là, il faut qu'on en sorte parce que moi, quand j'ai petit de CE2 qui me disent « Oh, mais de toute façon, nous, dans le quartier, de toute façon, nous, ça sert à rien de travailler à l'école parce qu'on n'arrivera à rien. » Mais là, c'est pas possible. C'est vraiment important de mettre en valeur, en fait, les habitants du quartier et justement de valoriser... Il montrait que Bellevue, c'est pas que la drogue, les coups de feu et puis les gens qui font n'importe quoi. Dans le monde d'après, il faudra que ça change.
Merci Sandra.
Merci à toi.
Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmes, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien. Et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits, ce sont des héroïnes du quotidien.
Pour moi, c'est quelqu'un qui est... C'est pas le, être la star, comme on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de choses aux gens, qui est disponible, qui est... des fois, j'entends des choses qui sont un peu difficiles, mais bon, je... Mais après, j'ai tellement de bons côtés que c'est pour ça que je continue, quoi. C'est pour ça que... L'héroïne, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, si, si.
Redis-moi comment tu t'appelles.
Pascal.
Pascal. Pascal du Vélo Café.
Voilà, c'est bien ça, ouais. Alors moi, je travaille avec mon triporteur. Donc je propose du café et du thé, donc à boire, du jus de l'orange pressé. Je m'installe sur le marché et j'ai ma place maintenant. Et après, je travaille avec les commerçants. En fait, moi, j'ai toujours été dans le commerce. Donc à l'arrivée du troisième enfant, je ne voulais pas m'arrêter de travailler, mais je voulais avoir un peu de temps libre pour l'accompagner, enfin, là, les premières années de sa petite enfance, mais je voulais aussi reprendre une activité dans le commerce, mais je voulais pas rentrer dans un commerce classique. J'avais plus envie de ce commerce fermé où on attend le client, on ouvre le matin et on attend le client qui arrive une heure dans la matinée, on le voit une fois dans la matinée, mais qui est pas toujours ouvert, parce qu'en fin de compte, moi je trouvais que le client, quand il rentrait dans un magasin, même moi j'étais pas aussi ouverte avec le client que dans la rue, en fait. Le client, il est un peu fermé.
Il a peur qu'on lui saute dessus.
Ouais, voilà, il a peur qu'on lui saute dessus. Et du coup, le contact se fait pas. Et donc, j'avais pris un café il y a 9 ans, plus de 9 ans, maintenant 10 ans, près d'un triporteur, comme ça, le café. Et j'étais dehors, dans la rue. Et j'ai pris mon café. J'avais Florent, qui était bébé, dans la poussette. Et il y avait une petite mamie qui était comme moi, avec sa tasse de café. On s'est assis sur un petit banc, un petit bout de banc, là, un peu plus loin. Puis j'ai discuté avec la dame. La discussion s'est faite et en fait elle me dit oh, c'est sympa comme idée, parce que moi j'aime boire le café, mais j'irai pas seule dans un bar, je me verrais pas être seule dans un bar autour d'une table, donc je là parce qu'elle voyait les gens passer, et puis du coup on a fait et je me suis dit c'est exactement ce que je vais faire. Donc j'ai parti travailler sur le premier marché de la Petite Hollande, et j'ai sympathisé avec un commerçant qui vendait, malheureusement il est plus là. Il me disait ouais c'est bien ce que tu fais, pourquoi tu viens pas au marché de Bellevue le mardi et le vendredi, et j'ai suivi ses conseils, puis moi comme je connaissais le quartier, je dis bon, oui j'y vais quoi, c'est simple. Quelque part, c'est vrai qu'au début, c'était pas très très bien vu d'être une femme sur ce marché en tant que commerçante, sincèrement. Au départ, les hommes me regardaient, bon, pas tous, hein. Bon, je me souviens, maintenant, il est même très gentil. Parce qu'en fait, moi, je me place en plein milieu, vous avez vu, dans le passage. Et il y a un commerçant qui est arrivé un jour avec son camion, il arrive toujours après le... Normalement, il devrait plus arriver après 8h, même avant, même 8h, 8h15, mais enfin, les placiers, il faut qu'il lève les bornes. Bref, il est arrivé, et du coup... j'avançais le vélo pour qu'il rentre, il s'est énervé, alors que j'avançais mon vélo, il voulait passer avec son camion, hein. Et puis il vient vers moi, puis je sais plus ce qu'il m'avait dit, il m'a agressé, mais il m'a fait une remarque très, et je lui dis, parce qu'il m'avait pas dit bonjour, donc je lui dis, on commence par dire bonjour avant, puis il me regarde, il me dit, mais si j'ai pas envie de te dire bonjour, je te dirai pas bonjour, et là, il a commencé comme ça, et là j'ai laissé tomber. Et après, parce qu'on travaillait face à face. Hein. Parce que lui, donc on se voyait et tout, il ne parlait pas, il me disait pas, bah, voilà, je laissais faire. C'est dur par contre, parce qu'il faut prendre sur soi. Et puis un jour, il est venu, au bout de peut-être 3 semaines plus tard, il est arrivé, puis il m'a dit, je voulais m'excuser pour la dernière fois. Il s'est excusé, mais pas tout de suite, mais il s'est excusé. C'est arrivé après. Et du coup, mais au départ, certains commerçants, ils regardaient, ils ne comprenaient pas trop, ils avaient peut-être peur aussi de venir. Et puis maintenant, tout le monde est à l'aise, ils arrivent au vélo, ils sont comme chez eux, en fait. Et c'est ça que j'aime, moi. Ils me disent, quand t'es pas là, ta place est vide. quand je viens pas, c'est parce que je suis sur un événement. Et je leur ai dit que j'étais pas là vendredi, mais ils sont peut-être venus. Et ils me disent, quand t'es pas là, c'est triste, ta place est vide. Parce qu'ils voient pas le vélo et ta place est vide. C'est ce qu'ils me disent à chaque fois.
Ça reste, tout ça.
Là, ça reste comme un marché normal. Ils ont arrêté le marché. Malheureusement, donc il y a eu un peu la guerre parce que c'était les marchés faits arrêtés, mais les grandes surfaces, enfin les supermarchés restaient ouverts. Donc on s'est battu. Moi, j'ai accompagné les commerçants sur la mairie de Nantes, pas pour manifester, mais se montrer sur devant la mairie pour demander à parler à Madame Roland ou un élu. Ils n'ont pas accepté de les recevoir. Donc, ils ont dit, demain, ou je ne sais plus, deux jours plus tard, on se rend à la préfecture. Donc, on est allé à la préfecture. Donc, on était à peu près 35-40 commerçants devant la préfecture. Et quand on est arrivé devant la préfecture, ils ont eu peur, ils ont fermé la préfecture. Donc, un élu qui est venu nous parler avec... il y avait le président du syndicat du marché, parce qu'en fait, il y avait, à la Petite Hollande, ils ont un président du syndicat qui représentait les commerçants, qui, lui, a été reçu par l'élu. Et il a demandé un rendez-vous. Donc on est allé, même pas une semaine après, en rendez-vous, pour expliquer notre situation. Quand on était devant la préfecture, il y a la police qui est venue, parce qu'ils avaient fait... Du coup, ils ont fermé, ils ont pris peur. Donc la police sont venus, ils ont demandé à parler avec nous, donc expliquer. Et les policiers sont restés 3 minutes. Ils ont dit, écoutez, nous, là, on voit des gens qui viennent manifester pour travailler... On n'a jamais eu ça. Donc, ils sont repartis, ils ont trouvé ça même assez drôle. C'est vrai, c'était vrai. Et du coup, on a été reçus à la préfecture et on a réussi à réouvrir les marchés. Donc, ils ont redémarré par les marchés de Bellevue, avec les barrières, avec un sens de circulation. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Un monsieur, il avait pris, je me souviens, des fruits et légumes. J'étais à côté de lui. Et d'un coup, il dit, j'ai oublié ma viande.
Donc, il n'est pas en train de faire demi-tour.
Non, il est parti dans l'autre sens. Sauf qu'il fallait pas. Donc la police municipale, parce qu'ils sont plusieurs, hein, ils sont elle lui a demandé de faire tout. Ils lui ont dit non monsieur, vous faites le tour. Donc il a été obligé de faire tout le tour pour refaire la queue pour revenir. Mais j'ai dit c'est fou quand même. Il dit mais c'est comme ça, c'est les règles et tout. Il y a des trucs. Du coup c'était un peu tendu et puis il y a des commerçants plus le port du masque. Dès que le masque était sous le nez, ils ont verbalisé. Là il y a eu plein d'amendes. Dès qu'ils descendaient le masque un peu sous le nez, ils étaient à l'affût, quoi. C'est pour ça qu'il y avait quand même un peu de tension. Et du coup, à mon vélo, ça pèse, en fait. Parce qu'après, il y a José, de la police municipale, qui va être à mon vélo à prendre le café avec le placier. Et puis, il y a un commerçant qui est énervé parce que il a eu, juste avant, la police municipale qui lui a parlé de son masque ou bien autre chose. Du coup, il venait, puis il disait, mais tout vraiment de José et tout. Puis du coup, c'est vrai que je trouve que, alors qu'en temps normal.
C'est un endroit où tu peux.
Ouais,
c'est ça. Discuter un peu plus
tranquillement, là. Une forte sur le moral, quoi, parce que des fois il y a des choses qui sont compliquées. Moi j'ai deux trois femmes là qui sont en souffrance, une femme qui a plus ses enfants, on lui a retiré la garde, donc s'est confiée un peu à moi, m'a raconté. Donc moi j'écoute, elle m'a raconté tout son truc, et un jour elle revient 3 semaines plus tard, un mois après, elle était de nouveau convoquée, et je l'entends arriver, elle était accompagnée d'une copine, je l'entends, j'étais occupée à servir un café, j'entends dire, il y a la dame qui était là la dernière fois, elle est gentille, elle m'a écoutée, hop, elle est arrivée, elle m'a pris par le cou, et elle m'a embrassée. En fait, j'avais beaucoup de gens en souffrance là. Et là, par contre, moralement, c'était lourd. Il faut être forte sur eux. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime que tout le monde puisse discuter ensemble, parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est comme ça qu'on progresse, en fait.
Interview Anne-Gaëlle Gauduchot. Montage et création sonore Damien Fourcault. Une production de la compagnie La Lune Rousse.
venez d'écouter trois portraits de héroïnes du quotidien réalisés par la Compagnie de la Lune Rousse. Le podcast de cette émission est à retrouver sur jetfm.fr. À 19h, retrouvez Chemin d'Afrique par Calomé. Bonne soirée sur JetFM.